Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroc.
Donc vous êtes une montpelliéraine, une pure jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices et amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Le 9 juin prochain auront lieu les élections européennes. Dans cette émission, il est impossible de faire le tour de la très abondante offre politique. À ce jour, 33 listes sont annoncées. Impossible même en s'en tenant aux dites grandes listes et en écartant l'extrême droite. J'ai donc choisi un invité qui puisse parler de l'Europe de manière à la fois concrète et locale. Il dirige la Maison de l'Europe de Montpellier, membre du réseau Europe Direct. Il s'appelle Olivier Dedieu. Olivier Dedieu, merci d'avoir accepté de venir au micro de Divergence FM. Vous avez été notamment directeur de cabinet du président de la communauté de communes du Pays de Lunel et chargé de mission métier à l'Agence française de la biodiversité, aujourd'hui appelée Office français de la biodiversité. Vous êtes de longue date formateur au CNFPT, le Centre national de la fonction publique territoriale, qui forme les agents des collectivités locales. Depuis 5 ans, vous êtes donc le directeur de la Maison de l'Europe de Montpellier. Nous verrons ses missions et activités, mais qu'est-ce qui vous a conduit à prendre cette responsabilité là, il y a quelques années ?
Oh, c'est un parcours par rapport à l'Europe, parce que j'ai connu toute la période 2004-2005 du débat sur le traité européen,
oui,
qui a été une période qui m'a en termes politiques, en fait, hein, qui m'avait très intéressé, parce qu'en fait, on parlait politique partout. Même on m'a demandé d'intervenir à l'université des sciences, par exemple, dans des lieux de formation. Parce que les gens se disaient, bah, tiens, je dois voter pour l'Europe, mais finalement, je ne sais pas de quoi on parle. Voilà. Et donc, bon, après, ma vie professionnelle m'a amené sur d'autres choses. Et puis un jour, le président de la Maison de l'Europe de Montpellier, Laurent Pradeil, m'a dit, bah, écoute, est-ce que ça t'intéresserait de venir nous rejoindre? Et je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas.
Pourquoi pas, d'accord, voilà. Et on verra bon, ce que vous faites. Alors, comme vous le savez, avant de visiter la Maison de l'Europe, on va vous prier de raconter votre Montpellier.
Ouais.
Olivier Dedieu, quels sont les lieux à Montpellier que vous aimez beaucoup, même pas nécessairement connus, mais que vous conseillez et vous plaît d'aller de temps en temps?
Alors, Montpellier, en fait, c'est une ville où mes lieux ont beaucoup dépendu de mes périodes.
Oui.
J'étais à côté de vos locaux, à la faculté de droit. Donc, quand j'étais étudiant, en fait, pour moi, Montpellier, c'était la rue d'université, le bar La Vieille Porte, ouais, la plage Jean Jaurès, et on finissait à la GEM, la boîte de nuit des étudiants de Montpellier, ouais, à l'époque. Et finalement, je ne sortais pas trop de ces repères-là. Ensuite, bah, j'étais papa, j'avais mes enfants, j'habitais... j'adorais le Jardin des Plantes, en fait.
Ouais.
Voilà, c'était un lieu magique.
Il faut toujours le rappeler. Parce
voilà, qui est un lieu totalement hors du temps, ouais, en pleine ville. Et d'ailleurs, je l'ai redécouvert il y a 3 ans, puisqu'on avait organisé un événement européen et l'université nous avait prêté le lieu, en fait, nous avait permis de privatiser le lieu. En fait,
pour voilà, une réception, quoi.
Non, parce qu'en fait, on avait fait un jeu de piste autour de l'Europe, ouais, avec les associations européennes, et on avait fini sur une paella, d'ailleurs, géante. Voilà.
Très bien. Bon, voilà, donc c'est quelques indications, mais c'est vrai que le Jardin des Plantes, beaucoup de mes invités en parlent, même si le lieu mérite de découvert par des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller. Et alors, quand vous recevez des amis ou des parents de passage, que leur dites-vous de Montpellier? Bon, vous avez nécessairement connu d'autres villes. Qu'est-ce qui caractérise Montpellier, à votre avis? Quel est peut-être le style montpelliérain?
Alors, bah déjà, Montpellier, c'est d'abord sa position géographique. On a la chance d'être à un quart d'heure de la mer. On est à 3 quarts d'heure de la montagne. On est sur tous les réseaux. Donc, c'est une ville qui est très facile à vivre, qui est une ville très jeune aussi. C'est vrai que Alors du coup, quand on vieillit, on se dit « Ah ouais, quand même, je suis décalé. »
Oui, certes. Mais en fait, les étudiants créent l'ambiance, quand même.
Mais oui, oui, non, mais on le voit de suite. Hein, dès qu'on va dans des villes qui ne sont pas étudiantes, c'est, entre guillemets, enfin, passez-moi l'expression, c'est un peu mort, quoi. Hein, oui. Voilà. Et c'est une ville qui est très dynamique. Il y a plein d'innovations, plein d'animations. Voilà, il y a un choix politique fort aussi en matière de, d'événements de, culturels. Voilà, donc c'est... voilà, c'est oui, ben je dois avouer que voilà, on a un centre-ville piétonnier qui est très sympa, parce que nous on y travaille effectivement, et ça a quand même cette qualité. On est étonné d'ailleurs de voir toutes ces villes où ça n'existe pas, un centre-ville piétonnier.
Oui, que ce soit l'ancien accoutumé. Enfin, dernière question là, même, brièvement, ça mériterait probablement le développement. Donc vous avez été le témoin de l'évolution de la ville, de sa croissance démographique, urbanistique. Quel jugement vous portez sur les mutations très fortes que notre ville a connues ?
Alors, moi déjà, le gros de ce que j'ai connu de la ville, c'est à partir de la fin des années 80, quand parce que j'étais pas sur Montpellier, mais dans l'est du département.
Oui, de l'autre côté du Vidour.
Voilà. moi, j'étais plutôt du côté de Castries. Mais, et ce qui m'a étonné, c'est qu'en fait, ça n'arrête pas de grandir, quoi. Mais après, c'est depuis les années 60, en fait, hein, Montpellier, c'est exponentiel, quoi. Et donc, il y a même aujourd'hui, moi, il y a des nouveaux quartiers qui ont émergé que je ne connais pas, en fait. Et ça, c'est impressionnant. Et on ne voit pas comment ça va s'arrêter, en fait. Voilà.
Bon, on verra. L'actuel maire annonce qu'on va lever le pied, que la ville va lever le pied, en tout cas dans la consommation des terrains, mais les citoyens en jugeront. Alors maintenant, parlons donc Europe. La Maison de l'Europe de Montpellier est située à la Maison des Relations Internationales, qui accueille d'autres structures. Donc précisément à l'hôtel de Sully, beau petit hôtel, situé au bout de l'esplanade pour ceux qui ne connaîtraient pas. Quelques mots d'abord sur sa création en 1983 et sur sa trajectoire donc pendant 40 ans. Quelles ont été, je dirais, les principales étapes de ce parcours ouvert sur l'Europe ?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que la Maison de l'Europe de Montpellier, alors comme d'autres Maisons de l'Europe d'ailleurs, hein, ont bénéficié la Maison de l'Europe a bénéficié à sa création d'un très fort soutien de la mairie. C'était même une volonté hein, du maire de l'époque, donc c'était Georges Frêche, qui est une Maison de l'Europe à Montpellier pour qu'on parle d'Europe. Voilà. Donc avec d'ailleurs des moyens qui à l'époque étaient relativement conséquents. Et progressivement, la Maison de l'Europe a élargi son périmètre d'action, parce que historiquement, on était essentiellement montpelliérain, et progressivement, on est rentré dans un réseau qui est le réseau Europe Direct, donc de la Commission européenne, ce qui nous a amené d'ailleurs à élargir notre périmètre d'intervention, puisque on couvre à la fois, donc si vous voulez, on est 5 structures Europe Direct dans la région. Et la plupart sont...
La grande région Occitanie, vous voulez dire ?
Alors, en Languedoc-Roussillon, on est 3. En Occitanie, on est 5. Voilà. Et on s'est fait un devoir, en fait, aussi de couvrir les territoires ruraux, puisque la plupart de nos structures, effectivement, sont plutôt en milieu urbain. Voilà. Donc, nous... Et bon, après, ça a été un choix. Voilà. Donc, le Gard couvre la Lozère. Et donc, nous, l'Hérault couvrons l'Aveyron. Voilà.
D'accord. Ouais. Très bien. Alors, donc, quels sont les moyens humains et financiers dont vous disposez, et vos ressources là, qui me permettent de développer, en tout cas de perpétuer vos activités ?
Alors, les ressources, alors, je vais parler de ce qu'on appelle les ressources indirectes, c'est-à-dire, c'est pas de l'argent qu'on nous donne, hein, mais on a quand même la mise à disposition de locaux à la Maison des Relations Internationales, la possibilité d'ailleurs d'utiliser une partie des salles, hein, mises à disposition par la mairie. On s'appuie beaucoup aussi sur les ressources apportées par nos partenaires, parce que beaucoup de nos actions se font en partenariat. Après, nos moyens, c'est des moyens d'une association, hein, c'est-à-dire de salariés, en moyenne de services civiques, un ou deux stagiaires, une dizaine de bénévoles. Donc on n'est pas sur des grosses ressources, hein, et des subventions, effectivement, de collectivités. Alors d'abord, l'Union européenne, hein, qui est notre premier financeur.
J'imagine.
Voilà, parce qu'on est intégré dans ce réseau d'information.
Europe Direct.
Voilà. Donc c'est la DGCOM, hein, la Direction Générale de la Communication, qui finance, mais aussi la région Occitanie, puisqu'elle cherche aussi à valoriser les financements européens sur la région. La ville et la métropole. Et on a un certain nombre de communes aussi qui nous soutiennent via, effectivement, des conventions.
Voilà. Très bien. Alors maintenant, on va s'attaquer à une descriptive de ce que vous faites. D'abord, dites-nous, en entrée, quelles sont les principales activités, les principaux volets de votre action, et puis on les reverra de manière plus fine ensuite.
Alors, le plus simple, finalement, c'est que déjà, on fait une permanence, hein, c'est-à-dire que tous les jours, on accueille, on répond au téléphone à des gens qui nous posent des questions.
Sur rendez-vous ou spontanément, on peut venir chez vous ?
La plupart des gens ne prennent pas rendez-vous, ils viennent directement, mais bon, voilà. C'est toujours mieux de prendre des rendez-vous, surtout sur cette période qui est un peu chargée. Donc ça, c'est le travail, je dis, un peu basique. Après, nous, le choix, c'est surtout d'aller vers les gens, donc avec des interventions qui se font in situ, dans des lieux très différents. On essaye de répondre à toutes les demandes, en fait, d'intervention sur l'Europe.
Alors ça peut être un établissement scolaire, ça peut être une association... un comité de quartier, une entreprise.
Oui, tout le monde. Tout le monde. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, on a fait 4 interventions. La prison de Montpellier, ce qu'on appelle le SAS, hein, qui est à côté à Euromédecine.
Qui a ouvert il y a quelques mois. Là,
voilà, oui. Qui est... Voilà.
Qui est un peu une structure intermédiaire entre... la sortie et les ouais. formes de détention
habituelles. Bon, techniquement, habituelles, c'est voilà. quand même toujours une prison.
Ouais, mais c'est quand même...
toujours content d'en sortir quand même, quand on intervient. Donc l'idée, c'était de sensibiliser les détenus au vote, puisqu'on a des taux de participation qui sont extrêmement bas, alors qu'aujourd'hui, on facilite leur participation, notamment via le vote par procuration. Hier, on était juste à côté de chez vous, au collège Clémence-Royer. On intervenait auprès d'une classe de 5e. Et le soir, j'étais à Assas pour une réunion publique avec la population à la demande de la mairie, où on a une quarantaine de personnes pour discuter effectivement de ce qu'était l'Europe. Voilà.
Très bien. Donc, ah oui, d'accord. Il y a ce travail de sur mesure, je dirais,
oui.
voilà. par intervention successive.
Voilà, et on essaye. Et si vous voulez, l'enjeu, on est dans la communication, hein, c'est d'essayer d'adapter les outils d'information, de communication, d'intervention auprès des différents types de publics. Enfin, ça va du ludopédagogique à une communication sur les réseaux sociaux jusqu'à des interventions plus classiques.
Hein, voire plus techniques.
Oui, ou plus techniques, oui, effectivement, oui.
Alors donc, vous avez donc ce label Europe Direct, il y en a 47 en France, 5 en Occitanie, de l'argent qui arrive de Bruxelles, donc.
Oui.
Et quelles sont les principales missions qui vous sont confiées, que vous mettez en œuvre, donc, au titre, avec sous cette bannière Europe Direct ?
Alors, pourquoi ça existe, en fait, hein ? Bah, tout simplement parce que l'Europe, c'est, en termes administratifs, c'est un peu un nain, hein, 30 000 fonctionnaires sur l'ensemble de l'Union européenne. Donc très peu, en fait, on voit très peu de fonctionnaires.
L'Europe n'est pas incarnée, quoi. Voilà. Oui. À part par les élus, bien entendu, mais pas par des gens qui sont au service de la population, comme un service public dans nos collectivités. Quoi.
Bah,
ça n'existe pas.
Oui, c'est-à-dire que quand on a construit l'Europe, on s'est dit on ne va pas se surajouter un échelon administratif supplémentaire. Alors, soit on passe par les administrations classiques pour la gestion des fonds européens, soit on s'appuie sur des acteurs locaux de terrain, faisant le pari que ces structures sont plus adaptées aux réalités de terrain que effectivement un pilotage qui se ferait directement par Bruxelles. Donc ils ont mis en place ce réseau. Alors à l'époque, il y avait un volet rural et un volet urbain. Ils ont fusionné tout ça dans le réseau dit Europe Direct. Et donc en fait, c'est des appels à projets. On répond en fait à des appels à candidatures. Où on explique effectivement comment on voit notre stratégie de communication sur le terrain. Donc l'Union européenne nous dit voilà quelles sont nos priorités, on dit voilà comment on y répond, ils valident, et chaque année effectivement on leur propose un plan d'action. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne nous tiennent pas la main.
Enfin, oui, donc il y a ces grands axes décidés par la Commission européenne et sa direction générale de la communication. Comment les mettre en œuvre, comment les illustrer, vous proposer, et ensuite c'est base que s'établit votre programme.
Voilà, ensuite c'est validé, effectivement.
Donc, exemple ou deux. Oui, de quel type d'action, quels grands axes, ils sont peut-être trop nombreux pour qu'on les cite, mais pour donner un exemple d'un axe, c'est les conditions dans lesquelles vous l'avez illustré, mis en œuvre.
Bon, pour prendre un exemple, bon, alors là, effectivement, l'une des grosses priorités cette année, c'est effectivement les élections européennes. Donc, effectivement, on a dû définir un plan d'action pour dire, ben voilà, nous, dans le cadre des élections européennes, voici la stratégie de communication qui va être la nôtre. Alors, qui sont plutôt des interventions à la demande de faire. Alors, avec une cible qui est celle des primo-votants, hein, parce que vous savez, une ville comme Montpellier est une ville relativement jeune, avec du coup des taux de participation assez bas. Notamment d'ailleurs parce qu'on a un problème chez une partie des jeunes, qui est ce qu'on appelle la malinscription. C'est-à-dire qu'ils vivent à Montpellier, mais en fait, ils ont été inscrits ailleurs. Et putain, le dimanche, ah ben oui, c'est vrai, il faudrait que je remonte à De Gasville pour voter. Voilà.
Je le dis au passage, ouais. Parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur ce sujet avec une chercheuse qui travaille là-dessus. C'est souvent le cas, quoi. Les gens qui déménagent, et puis ils vont faire 200 km, ça prend du temps, de l'argent, je ne me déplace pas pour aller voter. Bon, c'est-à-dire que la faible participation, elle n'est pas due nécessairement à une rupture avec les questions politiques ou l'intérêt pour la vie publique et civique.
Voilà. Donc, pour prendre un autre exemple lié aux étudiants ou aux jeunes qui vivent à Montpellier, on a une question qui est celle des jeunes européens non français qui vivent à Montpellier et qui éventuellement souhaitent voter. Donc c'est pour ça qu'on a fait une communication spécifique là-dessus pour expliquer, voilà, un jeune Allemand qui vit depuis plus de 6 mois à Montpellier, et il a deux options en fait. Soit il s'inscrit pour voter pour les listes françaises à Montpellier, soit il va pouvoir voter pour la liste allemande. Alors, soit en retournant en Allemagne, soit en votant par procuration, voilà, avec des réalités techniques qui sont très différentes d'un pays européen à l'autre. Par exemple, les Italiens et les Roumains vont avoir un bureau de vote à Montpellier. Alors, par exemple, si vous êtes maltais, la seule option qui vous reste pour voter pour la liste maltaise, c'est retourner à Malte. Il n'y a pas de procuration.
Oui, ça dépend bien sûr du système électoral propre à chaque pays.
Voilà, donc chaque pays, effectivement, a ses modalités de vote et qui lui sont spécifiques. D'accord.
Alors voilà, il y a ce type d'action. Et alors, pour revenir sur ce que vous faites en Suisse, il y a des rendez-vous, des événements, des formes diverses. Vous avez prononcé le mot ludique tout à l'heure, par exemple, qui font partie, je dirais, de vos activités.
Oui, parce que on s'est très vite rendu compte qu'effectivement, certains types de publics, notamment les publics les plus jeunes, on les accroche plus facilement sur l'Europe qu'on est sur des approches ludopédagogiques. Enfin, là, pour prendre l'exemple des élections, on a même créé un jeu qui s'appelle « Aux urnes citoyens » pour sensibiliser les jeunes à ce que peut être un acte électoral. Voilà. Bon, de même qu'on fait beaucoup de simulations parlementaires, alors là, on est plutôt sur des jeunes de 16, 17, 18, 19, jeux de simulation parlementaire pour qu'ils arrivent à appréhender ce qu'est la complexité décisionnelle européenne.
Oui, les trois structures, le Parlement, la Commission, le Conseil, bon, en fait, c'est un peu compliqué. Alors, j'indique au passage qu'il est trop tard pour s'inscrire, donc c'est vrai qu'on aurait dû programmer cette émission plus tôt, parce que la clôture des inscriptions en ligne ou dans les mairies, c'était à la fin de la semaine dernière, c'est ça. Mais non, ceux qui sont inscrits peuvent bien sûr voter, nous y reviendrons. Donc. Alors, aux yeux de beaucoup, vous le savez, l'action de l'Union européenne apparaît souvent comme incertaine, lointaine. On dit Bruxelles, bon, c'est flou. Que répondez-vous à cette perception? Et donc, tout simplement, donnez-nous des exemples d'opérations cofinancées, financées en partie par l'Union européenne et que les Montpelliérains peuvent voir au détour des rues. Quelques exemples.
Ah ben, y en a quelques-unes, effectivement. Même si l'Europe, à l'échelle par rapport à l'État, ça reste quand même un budget relativement modeste. Pour prendre un exemple en termes de... Alors, il y a ce qu'on appelle la politique de cohésion, donc le Fonds de développement régional, le FSE+. Pour prendre un exemple très simple, les écoles de la deuxième chance à Montpellier, il y en a deux. La mission locale. Donc toutes ces structures à destination de l'intégration professionnelle des jeunes sont cofinancées par l'Union européenne. Bon, qui fait effectivement le pari que si on veut sortir les jeunes de la précarité, effectivement, il faut mettre l'accent sur la formation. Bon. De même que l'Europe, via la région et le FSE, finance la formation.
FSE, Fonds social européen.
Fonds social européen.
Qui est un des grands fonds historiques.
Voilà. Va financer effectivement la formation des demandeurs d'emploi. Voilà. Pendant le plan de relance, par ailleurs, tout le dispositif Un jeune, une solution, ça a été des financements européens. Alors d'ailleurs, on le voit là, puisque les contrats de professionnalisation bénéficiaient d'une aide de 8 000 euros, parce que pendant la période 2020-2023, ça a été financé par l'Europe. Là, on voit qu'a priori, l'État coupe les robinets, parce que désormais, ça lui a financé.
Ah oui, d'accord. L'Europe a décidé de ne plus financer ce type d'action. On fait d'autres choix, en tout cas.
Alors, c'est pas qu'elle a fait d'autres choix, c'est que le plan de relance européen, qui a alimenté le plan national de relance, c'est-à-dire que sur les 100 milliards qu'a affiché l'État, il y en a 40 qui sont venus de l'Union européenne. Voilà. Et ce plan était dans le temps limité à 3 ans. L'idée, c'était, après la crise Covid, on a eu peur, en fait, d'une catastrophe économique en Europe, d'où ce soutien massif qui a été apporté. Mais effectivement, c'était sur une période déterminée. Quoi. Voilà.
Et est-ce qu'il y a des actions, enfin, des cofinancements européens sur des aménagements ou des équipements?
Tout à fait. Alors, sur la ville de Montpellier, il y en a peut-être moins qu'ailleurs, parce qu'à une époque, la ville n'allait pas trop chercher les financements européens. Mais je vois qu'aujourd'hui, elle s'y met quand même de manière assez sensible. Donc, alors pour prendre deux trucs, hein, la salle feuillade, l'outil culturel de la mairie à la Paillade, effectivement. Donc, ça a été un financement du FEDER, justement, à l'échelle de 800 000 euros.
Alors, FEDER, Fonds européen de développement régional.
Voilà, effectivement le jargon. dans le cadre du plan de relance européen, la ville a bénéficié, pour toutes les écoles de la ville d'ailleurs, d'un plan de développement du numérique dans les écoles, hein, parce que suite au Covid, on s'est quand même rendu compte qu'on avait un certain nombre de retards. Donc on a eu plus de 3 millions d'euros d'investissements qui ont été faits. Actuellement, sur la station d'épuration de la métropole, vous avez un projet LIFE, donc c'est un programme européen pour l'environnement, dont le prestataire est une entreprise qui s'appelle Chemdoc, avec l'idée de... donc qui est à Clermont-l'Hérault, avec l'idée de traiter les eaux grises, donc le résidu en fait de l'épuration, pour en faire des eaux réutilisables.
C'est un sujet dont on parle beaucoup ces derniers temps, pour le coup.
Voilà, donc et d'ailleurs, cette entreprise a elle-même son propre financement européen sur notre projet, parce qu'on sait qu'effectivement, on est dans des régions qui vont devenir semi-arides, bon, et donc il faut anticiper effectivement la problématique de la ressource en eau. Voilà. Même si sur Montpellier même, on n'est pas sur le secteur le plus problématique, on a le Baronne quand même. Hein. Mais par contre, sur d'autres territoires comme le Biterrois ou le Narbonnais, les questions sont plus sensibles. Quoi.
Très bien. Alors, quelques exemples pour polisser le propos. Alors, une question quand même sur la manière dont, à ce jour, se présentent les prochaines élections. Dans la dernière enquête de Eurobaromètre, hein, publiée le 17 avril, 71% des citoyens des 27 États membres ont déclaré qu'ils participeront probablement aux élections européennes. Par rapport à l'étude similaire menée il y a 5 ans, ce chiffre est en hausse de 10 points. Toutefois, de grandes disparités apparaissent d'un pays à l'autre. En France, le taux d'intention de participation était donc dans cette étude de 67%, légèrement inférieur à la moyenne européenne, mais en hausse de 6 points par rapport à 2019. On va voir ce qu'il en est. En 2019, je le rappelle, la participation était d'un peu moins de 50%, 49,9% exactement. Alors, selon vous, quelles sont, sans bien sûr un arrière-pensée partisane, quelles sont les raisons d'aller voter? Pourquoi il faut aller voter? Et en quoi ça concerne la vie quotidienne des habitants? Parce que c'est ça, en définitive.
Alors, moi, je pense que si les gens, effectivement, déclarent plus d'intention d'aller voter, et d'ailleurs, c'est déjà un phénomène qu'on a observé en 2019,
oui,
par rapport à 2014, oui, autant globalement la participation électorale, toute élection confondue, a tendance et plutôt à la baisse.
Ah oui, l'élection locale, c'était 30% de participation.
Oui, alors 2020-2021, avec la crise Covid, c'est un peu particulier, mais vous savez que le premier tour des législatives en France, le taux de participation a été inférieur à 50% quand même, ce qui est historique. Alors que là, les européennes, effectivement, il y a eu une chute 2009-2014, il y a eu un rebond, effectivement. Donc on est plutôt à l'inverse de la dynamique. Alors je pense que c'est lié au fait qu'une partie des gens se rendent quand même compte qu'aujourd'hui, l'Europe a un impact dans leur vie. Alors ils ne mesurent pas toujours la manière dont se structure cet impact.
Oui, parce que c'est diffus, c'est souvent des cofinancements, et donc même s'il y a le logo de l'Europe sur la fiche officielle,
oui,
ou sur le dépliant, ça suffit pas, bien sûr, à faire comprendre que l'Europe est là. Quoi.
Alors c'est déjà ça, parce que finalement l'Europe a fini par imposer le fait qu'à partir du moment où elle cofinance, faut quand même communiquer sur le fait qu'il y a un financement européen. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'Europe qui rendent les choses très floues. Enfin, on a eu le débat sur la crise agricole, quand même, on a entendu exactement tout et son contraire.
Oui, sur la politique agricole européenne, notamment, et sur la part qu'elle avait,
oui,
dans l'appui aux agriculteurs.
Voilà, et c'est vrai que du coup, globalement, je pense qu'il y a deux types d'élections en France. Vous avez les municipales, la présidentielle, où les gens ont l'impression d'avoir une vision claire de comment fonctionne le système. Et vous avez toutes les autres élections, les départementales, les régionales, les européennes, où pour les gens, c'est beaucoup plus flou. Mais on va dans la rue, on demande aux gens que fait la région, que fait l'intercommunalité. C'est déjà beaucoup plus difficile, effectivement, d'avoir des réponses de gens que si on leur demande ce que fait la ville.
Oui, en effet, oui. Ouais. Bien sûr, je confirme. Et alors donc, cette compréhension plus grande de l'Europe, cette proximité plus grande, elle trouve sa manifestation, je dirais, dans les intentions de vote. On verra bon, le soir du 9 juin ce qu'il en est, oui. Mais vous considérez aujourd'hui qu'il y a une tendance qui est plutôt positive, donc plutôt qu'un recul, notamment bon, ceux qui pourraient être induits par cette fraction de l'opinion, de l'offre politique qui conteste l'Europe dans son principe, en tout cas qui contestait l'Union européenne dans son principe, même si elle le fait plus ou si elle le fait moins maintenant. Donc. Alors c'est là, en gros, c'est la question du sentiment européen. Alors, patriotisme européen, peut-être le mot est probablement accessible, mais c'est ce sentiment ouais. d'appartenance à l'Europe, il faut parler aussi, avoir grandi.
Alors, il y a plusieurs choses là-dedans, dans ce que vous exprimez, parce que, un, on peut avoir le sentiment que l'Europe a des effets, a des impacts dans notre vie tous les jours. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'une partie des normes aujourd'hui qu'on applique, c'est de la norme européenne, en fait. Mais ce n'est pas pour autant qu'on fera le choix d'exprimer cet intérêt par de la participation. Et deuxièmement, on peut participer pour exprimer son rejet de l'Europe.
Donc les... Bien sûr. En votant pour des candidats qui sont hostiles à l'Europe. Bon, bien sûr. En tout cas, c'est ce que les Anglais, ont fait.
Oui.
Les Britanniques ont fait.
Alors, ceci étant, même en France, on constate que même les partis dits d'extrême droite, finalement, n'expriment pas l'idée, par exemple, d'un Frexit. Hein.
Ouais.
C'est-à-dire qu'ils ont rétro-pédalé, en fait, sur... Ouais. Donc, c'est plus un débat sur le mode de gestion de l'Europe...
Que fait-on de l'Europe ?
Que sur le rejet de l'Europe en tant que projet. Voilà.
Alors, dernière question, nuit de Dieu. Dans ce domaine, commandant, il y a beaucoup d'idées reçues, hein, de fantasmes, de manipulations sur l'Europe. Alors, j'imagine que vous les croisez assez souvent et vous efforcez de les combattre, à la peaufiner. Quelles sont les deux ou trois fausses idées de l'Europe qui continuent à circuler ?
Alors, juste déjà pour préciser, nous, on n'est pas là pour expliquer aux gens ce qu'ils doivent voter. Hein. On est là pour expliquer aux gens ce qu'est la réalité de l'Europe. Après, ils font leur propre choix politique.
Oui, je vous parlais de l'image de l'Europe.
Ouais. Alors, l'idée fréquente qu'on retrouve, c'est une idée qui est souvent stylée d'ailleurs par le personnel politique, même les pro-européens, ce qui est assez paradoxal en France, c'est l'idée que l'Europe impose aux États.
Je crois parce que ça se traduit par quand ça se passe bien, c'est au bénéfice de l'État, du gouvernement ou de la collectivité concernée. Quand ça va pas, c'est la faute à l'Europe, à Bruxelles, etc.
Quoi. Oui, alors c'est un peu comme quand un maire met le problème sur le dos de l'intercommunalité. Hein, c'est un peu la même logique. Et même les partis pro-européens parfois tombent dans cette dérive. Or, le fonctionnement des institutions européennes, notamment pour des pays comme la France, qui est quand même le deuxième pays en population, fait qu'il n'y a pas un texte qui est imposé de l'Union européenne qui est imposé à la France. Enfin, la France les valide.
C'est-à-dire, il y a des membres du gouvernement qui vont au Conseil et qui, ils discutent, ils négocient, mais il y a un accord à l'arrivée.
Alors même, mais dès le départ, c'est-à-dire le Conseil européen, le chef de l'État français, par exemple, hein, quand on décide une position sur l'Ukraine, c'est les chefs d'État qui décident. Oui. Après, la Commission, entre guillemets, exécute, mais le chef de l'État de l'Europe, c'est le Conseil européen, donc c'est les chefs d'État. Et ensuite, effectivement, quand il faut élaborer un texte, c'est pas que le Parlement européen qui décide, puisqu'il y a une espèce de Sénat européen qui représente les ministres des différents pays, qui va décider de valider ou pas le texte. Donc, par exemple, il y a eu un débat qui a un peu fait tiquer localement, notamment ici parce qu'on a la mutuelle des motards, c'est le fameux contrôle technique des deux roues, mais ce texte a été validé par l'État français, en tout cas dans le fonctionnement européen.
Alors, on s'en tiendra là, mais c'est une manière de mettre le doigt sur ce qui se passe vraiment et évacuer quelques idées reçues ou approximations. Je vous remercie, Olivier.
Ben, je vous en prie, merci.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché ?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Sarov.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, une pure jus.
Ben, Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.